Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Audible Studio présente 2010, Odyssée 2, de Arthur C. Clarke, traduit de l'anglais par Pierre Allien, lu par Mathieu Dahan. Avec ma respectueuse admiration aux deux grands citoyens russes évoqués ici, le général Alexei Leonov, cosmonaute, héros de l'Union soviétique, artiste peintre, et l'académicien Andrei Sakharov, savant, prix Nobel, humaniste. Note de l'auteur. Le roman 2001, l'Odyssée de l'espace, a été écrit pendant les années 1964-1968 et publié en juillet 1968, peu après la sortie du film. Comme je l'ai relaté dans Les Mondes perdus de 2001, les deux projets ont été menés de front, chacun venant influencer l'autre. J'ai fait ainsi l'expérience étrange de revoir le manuscrit après avoir vu des rushs filmés d'après une version précédente, une façon stimulante mais plutôt coûteuse d'écrire un roman. En conséquence, le livre et le film se suivent de beaucoup plus près que ce n'est le cas d'habitude, mais ils ont aussi des différences majeures. Dans le roman, le vaisseau Discovery avait pour destination Iapétus, ou Japétus, la plus énigmatique des nombreuses lunes de Saturne. Le système de Saturne était atteint via Jupiter. Discovery s'approchait très près de la planète géante, se servant de son énorme champ gravifique pour produire un effet de fronde et se catapulter vers la seconde étape de son voyage. Les sondes spatiales Voyager ont fait exactement la même manœuvre en 1979, lors de la première reconnaissance détaillée des géantes extérieures. Dans le film, par contre, Stanley Kubrick, pour éviter toute confusion, situe à juste titre la troisième confrontation entre l'homme et le monolithe parmi les lunes de Jupiter. Saturne disparaît entièrement du scénario. Mais plus tard, Douglas Trumbull a utilisé l'expérience acquise au tournage pour filmer la planète aux anneaux dans sa propre production « Silent Running ». Personne n'aurait pu imaginer, au milieu des années 60, que l'exploration des lunes de Jupiter aurait lieu non pas au siècle suivant, mais à peine 15 ans plus tard. Et nul n'avait même rêvé des merveilles qu'on y découvrait, même si nous sommes raisonnablement sûrs que les découvertes des deux voyageurs seront un jour éclipsées par des trouvailles encore plus surprenantes. Quand j'écrivis 2001, Io, Europe, Ganymède et Callisto n'étaient que des points lumineux dans les télescopes les plus puissants. Maintenant, ce sont des mondes distincts, et l'un d'eux, Io, est le corps céleste ayant la plus grande activité volcanique de tout le système solaire. Pourtant, tout bien considéré, le livre et le film résistent tous deux fort bien aux dernières découvertes, et il est fascinant de comparer les images de Jupiter tournées jadis avec les documents enregistrés par les caméras des voyageurs. Mais il est clair que toute œuvre actuelle doit tenir compte des résultats de ces explorations. Les lunes de Jupiter ne sont plus un territoire inconnu. Et il faut prendre en considération un autre facteur, plus subtil, d'ordre psychologique. 2001 a été écrit à une époque qui est maintenant au-delà d'une des grandes lignes de partage dans l'histoire de l'humanité et dont nous sommes à jamais séparés depuis que Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune. Le 20 juillet 1969 était encore à 5 ans dans l'avenir quand Stanley Kubrick et moi avons commencé à réfléchir au légendaire bon film de science-fiction, comme il dit. Maintenant, l'histoire et la fiction sont inextricablement mêlées. Les astronautes d'Apollo avaient déjà vu le film quand ils sont partis pour la Lune. L'équipage d'Apollo 8, ceux qui furent les premiers hommes, à Noël 1968, à poser les yeux sur la face cachée de la Lune, m'ont dit qu'ils avaient eu la tentation de signaler la découverte d'un grand monolithe noir. Hélas, le sérieux l'a emporté. Mais il y a eu ensuite des exemples presque surnaturels où la nature a imité l'art. Le plus étrange de tous fut l'équipée d'Apollo 13 en 1970. Pour commencer, le module de commandement où se trouve l'équipage avait été baptisé Odyssée. Juste avant l'explosion du réservoir d'oxygène qui fit avorter la mission, les cosmonautes écoutaient le thème de Richard Strauss, Zarathoustra, désormais associé au film. Immédiatement après la panne de courant, Jack Swigert appela le contrôle. « Houston, nous avons un problème. » Hall, dans une occasion semblable, avait employé les mêmes mots en s'adressant à Frank Poole. « Désolé d'interrompre les festivités, mais nous avons un problème. » Plus tard, quand le rapport de la mission Apollo 13 fut publié, un administrateur de la NASA, Tom Paine, m'en envoya un exemplaire en annotant ainsi les paroles de Swigert. « Comme vous avez toujours dit que cela se passerait, Arthur. » J'ai toujours une impression très étrange quand je repense à cette série d'événements, presque, en fait, comme si j'avais une certaine responsabilité. Un autre écho paraît moins sérieux, mais non moins frappant. Une des scènes les plus brillantes du film, techniquement, était celle où l'on voyait Frank Poole courir en rond sur la piste circulaire de la centrifugeuse géante, tenue en place par la gravité artificielle produite par sa rotation. Presque 10 ans plus tard, l'équipage du Skylab, une réussite superbe, s'est aperçu que les constructeurs leur avaient fourni une géométrie similaire. Une série de placards de rangement formait un anneau circulaire et lisse faisant le tour de la station orbitale. Skylab n'était animé d'aucune rotation, mais cela n'a pas rebuté l'ingéniosité de ses occupants. Ils ont découvert qu'ils pouvaient courir sur cette piste, comme des souris dans une cage circulaire, et produire un effet virtuellement indiscernable de celui qu'on voyait dans 2001. Et ils ont télévisé leur exercice vers la Terre. Ai-je besoin de citer la musique d'accompagnement ? Avec ce commentaire, Stanley Kubrick devrait voir ça. Ce qui est arrivé un peu plus tard, car je lui ai envoyé l'enregistrement fait au télécinéma. Il ne me l'a jamais rendu, Stanley se sert d'un trou noir en guise de classeur. Il y a un autre lien entre le film et la réalité. Le tableau fait par le cosmonaute Alexei Leonov, le commandant d'Apollo Soyouz, près de la Lune. Je l'ai vu pour la première fois en 1968, quand 2001 a été projeté à la Conférence des Nations Unies sur l'usage pacifique de l'espace. Immédiatement après la projection, Alexei m'a fait remarquer que son image, page 32 du livre de Leonov et Sokolov, « Les étoiles nous attendent », Moscou, 1967, montre exactement le même agencement que l'ouverture du film. La Terre se levant derrière la Lune et le Soleil se levant plus loin en arrière-plan. L'esquisse autographe de son tableau est maintenant accrochée sur un mur de mon bureau. Pour d'autres détails, voir le chapitre 12. Peut-être est-ce le moment d'identifier un autre nom, moins célèbre, qui apparaît dans ce livre. Celui de Sui Shen Hsien. En 1936, avec le grand Theodor von Karman et Frank J. Malina, le docteur Hsien a fondé le laboratoire aéronautique Guggenheim à l'Institut de technologie de Californie, l'ancêtre direct du fameux laboratoire de propulsion à réaction de Pasadena. Il a été aussi le premier professeur de la chaire Goddard à Caltech et a apporté d'importantes contributions aux recherches américaines sur les fusées dans les années 40. Plus tard, au cours d'un des épisodes les plus honteux de la période McCarthy, il a été arrêté sur des accusations truquées quand il a voulu retourner dans son pays natal. Voici maintenant une vingtaine d'années qu'il est un des chefs de file du programme spatial chinois. Il y a finalement l'étrange affaire de l'œil de Iapétus, au chapitre 35 de 2001. Voici comment je décrivais la découverte par l'astronaute Bowman d'un détail curieux sur le satellite de Saturne. Un ovale blanc et brillant d'environ 400 000 de long sur 200 de large, parfaitement symétrique, et si nettement délimité qu'il paraissait presque avoir été peint sur la surface de la petite Lune. En se rapprochant, Bowman fut persuadé que l'ellipse brillante posée sur l'arrière-plan obscur du satellite était comme un œil énorme et vide qui le regardait s'approcher. Plus tard, il remarqua un minuscule point noir au centre exact qui s'avérera être le monolithe ou l'un de ses avatars. Alors, quand Voyager 1 transmit les premières photos de Iapétus, celles-ci montrèrent effectivement un grand ovale blanc nettement délimité avec une petite tache noire au centre. Carl Sagan m'a envoyé aussitôt une épreuve du laboratoire de propulsion à réaction avec ce commentaire énigmatique « En pensant à vous ». Je ne sais si je dois être soulagé ou déçu que Voyager 2 ait laissé la question en suspens. Il est donc inévitable que l'histoire que vous allez lire soit quelque chose de bien plus complexe que la suite du roman ou du film précédent. Lorsque les deux divergent, j'ai suivi la version cinématographique, mais je me suis surtout attaché à ce que ce livre se suffise à lui-même et à ce qu'il soit aussi exact que possible en fonction de nos connaissances actuelles. Ce qui, bien sûr, sera une fois de plus dépassé en 2001. Arthur C. Clarke, Colombo, Sri Lanka, janvier 1982.